Vous écoutez RTL.
Tout de suite sur RTL, on tombe de Charybde dans Scylla et ça coule de source. Bonjour Daniel Lacotte.
Bonjour Thomas.
Et ça fait pas mal.
Mais non, bienvenue, vous êtes un amoureux des mots, romancier. On va vous avouer quelque chose, tiens. Il y a quelques jours, un invité nous a purement et simplement poser un lapin. Il n'est jamais venu dans ce studio. D'ailleurs, il ne s'est même pas excusé. Bon, on sera charitable, on ne va pas dire son nom.
Vous êtes sympa,
mais
vous.
Ça a fait naître une discussion dans la curiosité. On s'est dit, poser un lapin, ça vient d'où? Et rire à gorge déployée et prendre des vessies pour des lanternes. Bref, c'est pour ça que vous êtes là, Daniel Lacotte. Ces métaphores, on va chercher leur origine. Alors, ce lapin, d'ailleurs, on ne peut pas toujours remonter à l'origine des expressions.
Non, parfois, c'est obscur. Ouais. Hein. Il faut d'ailleurs le dire, et je le dis dans le livre, quand on n'arrive pas, nous autres linguistes, à trouver l'origine, il ne faut pas avoir peur de le dire. Alors, le fameux poser un lapin, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et, bon, alors, d'abord, c'est probablement un peu l'origine, disons, emblématique, lubrique du lapin. Donc, poser un lapin, ça s'adresse très souvent à un rendez-vous galant, donc c'était pas le cas de votre homme.
Non, il est pas lubrique, le lapin.
Ah bah, il aime bien quand même.
Ah oui, c'est vrai, il se reproduit.
Si vous voyez sur RTL.fr, ah, oui. Je fais quelques gestes pour que Sidonie comprenne.
Vous avez déjà vu des lapins se reproduire.
Voilà. Alors, le monsieur n'était pas Alphonse Allais, parce que Alphonse Allais est mort, mais je peux pas m'empêcher à propos de cette expression poser un lapin de parler de ce brave Alphonse qui était quand même un auteur tout à fait exceptionnel et très très drôle. Et ses parents étaient pharmaciens à Honfleur et il aimait beaucoup faire des blagues et il participait à plein de petites rencontres comme ça le soir. Et un soir, je la fais courte, il tombe sur un baron qui était absolument exécrable, un aristocrate bon teint et qui n'arrêtait pas de dire, de réciter tous ses degrés de généalogie. Mmh. Et alors Alphonse Allais l'interrompt et lui dit, avoir une particule, c'est exceptionnel monsieur, être de quelque chose, c'est forcément exceptionnel. C'est comme être deux garennes, ça pose un lapin. Voilà.
Oh, c'est joli. Métaphore, je vous aime, c'est le titre du livre que vous publiez aux éditions First. Daniel Lacotte, on va d'abord se tourner les pouces et ensuite vous tirer les vers du nez. A tout de suite sur RTL.
Comment fonctionnent les métaphores et comment les interpréter?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Moi, je voudrais bien les voir, les gars qui les ont faites, les expressions. D'où ça sort, monter sur ses grands chevaux?
Sur RTL.
Bah oui, non, mais c'est vrai. Bah, c'est vrai, quand on est énervé, c'est vrai que la première chose à laquelle on pense, vite, vite, sors les chevaux!
La curiosité est un vilain défaut.
Bah non, pas les petits, les grands! Non, bah pourquoi? Parce que je veux pas m'énerver sur un poney!
Muriel Robin et les métaphores et les expressions dans ses sketchs et sur RTL au menu de notre curiosité avec le lexicographe Daniel Lacotte. Tiens, c'est quoi d'ailleurs un lexicographe?
Un lexicographe, c'est un monsieur curieux qui va fouiller dans les textes anciens, dans les dictionnaires, et qui essaye de voir un peu, de comprendre ce que peuvent bien vouloir dire les mots, et puis les expressions, et puis aussi les proverbes. Voilà. Moi, je travaille sur la truculence du langage, le langage jubilatoire.
Et on adore ça. Voilà. On peut dire que pendant la pub et les disques, d'autres travaillent, et nous, on se tourne les pouces.
Surtout vous, oui.
Ouais, alors, mais c'est paradoxal, parce que quand on se tourne les pouces,
exactement,
on fait quelque chose quand même.
Exactement. Mais c'est tout l'intérêt, vous savez, des expressions imagées, des syntagmes figés, comme on dit, nous autres linguistes, des proverbes dont je parlais tout à l'heure. C'est que souvent, et Sidonie l'a très bien dit tout à l'heure, on ne connaît pas tout à fait l'origine, et il ne faut pas avoir peur de le dire, parce que c'est très très curieux. Pourquoi on ne connaît pas l'origine? Parce que toutes ces expressions n'ont jamais vraiment été lexicalisées, vous voyez, elles ne sont jamais entrées dans des dictionnaires. Pourquoi? Parce qu'elles ont vécu par la tradition orale. Vous voyez, c'est ça le truc. Donc elles n'ont jamais été formellement inscrites, sont inscrites très tard, au 18e, 19e.
Et donc se tourner les pouces alors
on ne sait pas tout.
Ce que je voulais dire par là, c'est que souvent on n'a pas vraiment l'origine et souvent c'est contradictoire. On se tourne les pouces. Alors c'est très physique, comme vous l'avez dit, Thomas, de se tourner les pouces comme ça. Non, mais mine de rien, il y avait un grand spécialiste.
Il faut réfléchir dans un sens, ça va. Dans l'autre, c'est plus compliqué,
il faut réfléchir. Il y avait un grand spécialiste chez les hommes politiques, vous vous souvenez? Raymond Barre, vous savez, les images de Raymond Barre à l'Assemblée nationale,
ah,
qui
oui.
Tournait les pouces,
les images
superbes.
Il a fait d'autres
mais
choses.
Ici, il y a trop de jeunes, personne ne se souvient de Raymond Barre.
Ah bah quand même.
Bon, une campagne présidentielle quand même.
Et donc, c'est très ambigu parce que ça veut dire en fait ne rien faire, quoi. Ne rien avoir à faire de ses 10 doigts. Non. Ça aussi, c'est quelque chose. Comme on n'a rien à faire de ses 10 doigts, on se contente de 2. Vous voyez, c'est un petit peu ça.
Nous, on a du boulot et du pain sur la planche, Daniel Lacotte. Et d'ailleurs, on vous tire les vers du nez en ce moment même, c'est pas très ragoûtant ça comme expression ?
Pas très, non.
Qu'est-ce que font les vers dans votre nez ?
On sait d'où ça vient.
Alors vers d'abord c'est V-E-R-S, hein, c'est pas V-E-2-R-E.
Oui.
Hein, c'est avoir un ver dans le nez, là c'est autre chose. Mmh. Mais donc les vers en question, ce sont des larves d'une mouche, d'une grosse mouche pas très belle, qui s'appelle Eustre. O-E-S-T-R-E. Et donc, ces larves, figurez-vous qu'elles vont toujours se nicher dans les naseaux des mammifères, notamment le cheval, le mulet, et aussi les
mais brebis. Pas l'humain, donc.
Et pas l'humain, non, pas l'humain. C'est pas transmissible à l'humain.
Donc c'est une expression du paysan.
Voilà, le paysan devait les enlever des naseaux, parce que c'était quand même très, très dangereux pour les animaux, qui pouvaient d'ailleurs en mourir. Alors, quand on tire les vers du nez, ça fait du bien à l'animal, hein, les vétérinaires le savent et voient bien. Et quand on tire les vers du nez de quelqu'un, ça lui fait aussi du bien d'avoir finalement, sous la torture gentille, oser dire quelque chose, alors il est soulagé.
Ça ne pèse plus sur sa conscience.
Ça pèse plus sur sa conscience, ni sur son oiseau.
Alors il y a quand même dans votre livre Métaphore, je vous aime, publié chez First, il y a quand même une expression, et je suis content de trouver l'origine, parce qu'il ne faut pas prendre des vessies pour des lanternes.
Mais c'est vrai que Thomas, il rentre souvent dans le bureau de la curiosité, il dit « Oh, faut pas prendre de vessie pour des lanternes !»
D'abord, il faut nous rappeler ce que ça veut dire. Arrête de te foutre de moi. Il faut nous rappeler ce que ça veut dire, un, et deux, d'où ça vient.
Faut pas prendre des vessies pour les lanternes, faut pas se laisser berner, quoi.
Oui,
faut c'est vraiment le sens premier. Un sens légèrement autre, c'est de faut pas se laisser berner, mais faut aussi faire très 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 attention à ce qu'on dit et à ce qu'on écoute. Ouais. Alors on parle aujourd'hui des fake news, par exemple, ça peut en faire partie.
Mais ça vient d'où les vessies, c'est quoi les vessies?
Ah les vessies, c'est de la vessie de porc, tout simplement.
Mais qui servait quoi à éclairer à une époque?
Pas éclairer, mais qui servait, si vous voulez, de lustre, enfin. Hein, vous voyez, on mettait les chandelles à l'intérieur de la vessie pour qu'elle soit un peu couverte, pour pas que le courant d'air vienne éteindre la chandelle. Et donc, la vessie de... Vous avez vu des vessies de porc, quand même. Hein, c'est légèrement
bien
translucide.
Sûr.
Et alors, on vit avec ça. Et ça faisait une aura, comme ça, un petit peu, vous voyez, un halo, disons, de lumière.
Mais moins efficace qu'une vraie lanterne.
Très, très, très peu efficace. Et d'où lanterne et vessie, vous voyez ?
Et ben voilà, ça y est, j'ai compris, je suis content. D'autres métaphores sur RTL. Tiens, par exemple,
Thomas,
se faire un sang d'encre. Mais d'où vient cette expression ?
Ça m'arrive pour vous parfois.
Non, vous êtes gentil. Réponse dans un court instant, les curieux.
La curiosité est un vilain défaut.
Je vous propose une leçon sur la métaphore.
Thomas Hugues.
La métaphore est une figure de style, c'est-à-dire un procédé d'écriture.
Sidonie Bonnec.
Qui va permettre de rapprocher deux éléments qui ont un point commun.
Sur RTL.
On écoute Rof sur RTL, le rappeur qui chante le club des métaphores.
Pour faire plaisir à Laurent Gérard. Spéciale dédicace, Laurent.
Exactement, amoureux des mots qui nous rappellent le sens et l'origine aussi de ces expressions très imagées qu'on adore employer dans notre langue française, sans savoir toujours évidemment d'où ça vient. On a appris grâce à vous que les vessies que l'on prend pour des lanternes étaient des vessies de porc qui servaient en fait à protéger des bougies de fortune et ça faisait comme ça une sorte de halo bien moins efficace que les lanternes. Et on va continuer avec cette expression qu'on emploie très souvent aussi, c'est se faire un sang d'encre. On sait que ça veut dire s'inquiéter, mais elle vient d'où cette métaphore ?
Alors elle vient d'un médecin du 1er siècle après Jésus-Christ et qui s'appelait Claude Galien, qui a été un grand grand médecin de toute l'histoire de la médecine. Et les travaux de Galien ont duré pendant 14 siècles à peu près, vous voyez, jusqu'au 17e à peu près.
Et il nous a trouvé un sang d'encre.
Oui, je vais faire très vite, mais ce sont les fameuses quatre humeurs, vous savez, la bile, la trabile, la pituite, le sang.
Ouais.
Et voilà. Et oui, bien sûr, Hippocrate, il a travaillé sur Hippocrate et ensuite il a fait ses propres travaux. Et alors, il faut tout de suite comprendre, et ça me permettra aussi de parler d'une autre expression, une très belle métaphore, qui s'appelle « avoir les foies ».
Garde sous le coude,
voilà. Mais alors, c'est lié, Sidonie, si vous voulez. C'est lié avec le sang d'encre. Parce que, à cette époque-là, Galien pensait que la machine à sang, la machine sanguine, qui est bien évidemment le cœur, tout le monde le sait aujourd'hui, jusqu'au XVIIe siècle, hier matin, on pensait que c'était le foie. Parce que le foie était rouge. Alors évidemment, Galien avait bien vu qu'il y avait du sang dans les artères. Avant, on pensait qu'il y avait de l'air. Il a compris qu'il y avait... Mais on ne pouvait pas disséquer les cadavres.
Donc on y...
Because la religion chrétienne.
Alors l'encre, alors elle est où, Daniel Lacote?
Eh bien l'encre, c'est la bile, c'est le noir. Le noir de l'encre, le noir de la bile. Et donc le sang, quand le sang se mélangeait à la bile, les quatre humeurs, hein, sang, ouais, etc. Bon, quand le sang se mélangeait à la bile, c'est que le sang devenait noir, si vous voulez. Parce que et Galien
bon
avait
signe.
Dit... Voilà, c'était pas bon signe. D'accord. Avoir mauvaise humeur aussi, ouais, vous savez. Les... Galien avait trouvé quand même ce truc assez génial. Hein. Il avait dit, il faut que les quatre humeurs soient en équilibre dans le corps pour qu'on soit bien. Donc si les quatre humeurs sont pas en équilibre, ça veut dire que le sang s'est mélangé à la bile. Et donc le sang est noir, donc se faire un sang...
Ça donnait se faire d'encre. De la bile aussi.
Se faire de la bile...
Et alors avoir les foies?
Alors avoir les foies, c'était pas avoir les foies, Hugues. C'était Thomas.
C'est
pardon.
Thomas.
Thomas.
Oui, bon,
bah oui, quand on a deux prénoms.
Ça marche dans les deux sens.
Ça va. On va pas s'embêter.
On fait pas la chouchoute. Pas tout, hein, voilà.
Bon, ouais. Alors.
Alors avoir les foies.
Avoir les foies blancs, c'était avoir les foies blancs. Ah. Avoir les foies blancs. Pourquoi avoir les foies blancs? Parce que quand vous n'aviez plus de sang dans le foie, eh bien le foie, il était blanc. Voilà.
D'accord.
Et vous étiez vous-même blanc. D'ailleurs, quand vous avez peur, vous êtes pâle. Vous êtes blanc.
Oui.
D'où avoir les foies.
Une petite dernière expression pour la route, Daniel Lacote. Une expression que j'ai entendue un petit peu quand j'étais enceinte. Avoir un polichinelle dans le tiroir. Ça vient d'où cette expression? Bah, qui était polichinelle?
Le polichinelle, c'est très marrant. C'est merveilleux. C'est le comédien de la Commedia dell'arte, ouais, italienne. Hein, ouais. C'est un petit bonhomme, un petit polichinelle, quoi. Et avoir un polichinelle dans la soupente, ou avoir un polichinelle sous le tablier, ou avoir un polichinelle dans le tiroir, c'est bien sûr être enceinte, et c'est une très très jolie expression, très imagée, très, très métaphorique.
Merci beaucoup, Daniel Lacote. Je rappelle que vous publiez Métaphore, je vous aime, c'est aux éditions First, avec de très belles illustrations pour ce dico des belles images. Merci.
Merci Thomas.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.